vous avez le pied au niveau de la chaussure. On reste dans le cadre d'une finale, je n'en veux plus. C'est clair ?
Voilà. Non, je n'ai pas touché.
C'est déjà trop.
Salut tout le monde, c'est Abdallah et vous écoutez Banquette, votre podcast foot, culture et société. Dans ce nouvel épisode, j'ai reçu un grand nom de la Ligue 1, ancien grand espoir quand il était à Bordeaux. Il s'est ensuite imposé comme l'un des meilleurs milieux de terrain défensifs à Lille, où il a remporté le doublé Coupe Championnat en 2011. Oui, Rio Mavuba est l'invité du 59e épisode de Banquette. Avec lui, on a parlé de sa longue carrière en Ligue 1, à Bordeaux et Lille donc, de son histoire familiale, singulière à bien des égards, et de son engagement en faveur des orphelins au Congo, le pays de son père, lui aussi ancien footballeur. Bref, je vous laisse découvrir tout ça et plus encore dans ce nouvel épisode de Banquette. Bonjour Rio.
Bonjour.
Comment ça va ?
Très bien, merci. Ouais.
Bah écoute, merci beaucoup de venir dans Banquette, de parler un peu de toi, de ta carrière, de ta vie. Tu as sorti un livre il y a quelques mois, Rio Mavuba, capitaine de ma vie, l'exil, le foot, les bleus. Donc on va en parler grandement parce que tu racontes vraiment un peu toute ta vie dedans. Ce que j'ai trouvé très très cool, c'est pas juste une partie, un fragment de ta vie ou de ta carrière. Et avant vraiment de commencer, je voulais savoir si tu avais un sujet sur lequel tu voulais parler en particulier, en premier, soit l'exil entre guillemets, Bordeaux, Lille, l'équipe de France.
Non, on va commencer par le début.
Pour commencer par le début. Ouais, ouais. Le début, c'est ta naissance alors, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. Ouais.
Le 8 mars 1984. Naissance particulière, parce que tu es né sur un bateau. Et c'est forcément quelque chose d'exceptionnel, mais je suppose que quand tu étais plus jeune, quand tu étais gosse, ce n'est pas un truc qu'on te ressortait tout le temps. C'était.
Non, ouais.
C'était limite anecdotique, je suppose.
Ouais, c'est clair, c'était anecdotique, on n'en parlait pas. C'est vrai que. Ou alors j'ai perdu la mémoire, mais on ne se demandait pas forcément où on était né avec les copains ou même avec la famille. Ça c'est devenu plus parlant lorsque j'ai grandi.
Puis mais ça, on te l'a dit quand ça que t'étais
Non, je le savais depuis.
Tu le savais depuis oui, toujours, ouais.
Mais je prenais pas.
Ouais.
Pour moi, c'était pas ouf, quoi. C'était pas ouf. Et puis c'est vraiment en grandissant, en prenant conscience de tout, en prenant conscience de comment ça s'est passé, que là, ouais, tu réalises vraiment.
Ouais, et c'est à partir de quand, justement, que tu as vraiment réalisé que ton histoire était, entre guillemets, exceptionnelle ?
Exceptionnelle, je ne vais pas dire ça, mais on va dire spéciale.
Ouais.
Vraiment, quand j'ai pu être en âge de m'apercevoir de ce qui se passait vraiment avec tous les migrants, les réfugiés. C'est vraiment là où je me suis dit, ouais, j'ai quand même eu beaucoup de chance. Ouais.
Ouais. Et il y a un truc qui m'avait marqué quand j'ai lu le bouquin, c'est l'épisode que tu racontes quand tu as 14 ans, je crois, où tu me corriges si je me trompe, hein, où tu dois rentrer dans la sélection d'Aquitaine.
Ouais.
Et en fait, tu ne peux pas y rentrer parce qu'il s'avère que tu n'es
pas français. Ouais,
t'es pas français, ouais. Il y a une limite, une notion d'apatridie aussi qui est là et tu te le manges en pleine poire parce qu'avant, tu n'avais pas conscience de tout ça, quoi.
Voilà.
Et c'est vraiment à ce moment-là. Et comment toi, tu le vis, ou ce moment où, en fait, on te rappelle, on te met face à la réalité que ouais, tu n'es pas français et que tu n'as pas les bons papiers. Comment tu le vis à ce moment-là ?
Bah, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. Et j'ai pris une claque parce que j'ai dû commencer à parler de ma vie, à parler de moi. Et c'est là où ça a été quand même c'était dur parce que ça te refait plonger dans des souvenirs comme moi par exemple au centre de formation je parlais toujours de ma mère mais ils pensaient que j'avais ma mère même s'ils savaient que une ou deux années avant j'avais perdu mon papa ils pensaient que j'étais avec ma mère biologique ils savaient pas que c'était que ma mère biologique
oui, c'est pour préciser aux auditeurs ton père était ta mère enfin tes parents ont fui l'Angola donc ton père avec ta mère et son autre femme Suzanne c'est ça
oui c'est ça oui
donc ta mère elle est décédée très très jeune
quand
t'étais très jeune c'est ça et ta Suzanne est un peu comme
voilà,
ta
c'est ma mère,
comme ta mère ouais,
quand et c'est vrai quand je parlais de ma maman ils comprenaient pas enfin eux ils pensaient que j'avais toujours ma maman biologique et quand j'ai perdu mon papa donc ils pensaient que j'étais avec ma mère et mes frères et sœurs et ils savaient pas que j'étais entre guillemets j'étais orphelin Donc voilà, c'est se rappeler, se remémorer tous ces souvenirs-là, se rendre compte que t'es différent des autres avec qui t'as grandi. Toutes ces choses-là, ouais, c'était pas facile, surtout pour un gamin de 14 ans. Ouais.
Et par rapport à tes copains du foot, comment eux, ils ont réagi en apprenant ça, en sachant que, en fait, Trio, il pourra pas venir avec nous à la sélection
d'Aquitaine. Je sais même pas comment ils l'ont perçu.
Ouais, t'as pas eu de retour par rapport à ça ?
Non, même pas. C'est vrai que même aujourd'hui, on a jamais parlé de ça. Mais c'est vrai que même, peut-être qu'ils, je sais pas, peut-être que mon parcours, ma vie, ça, peut-être qu'ils étaient au courant, mais ils m'en ont jamais parlé parce que j'ai eu certains de mes amis justement qui m'ont dit. Mes amis proches qui m'ont dit je savais beaucoup de trucs mais j'en ai pas appris beaucoup. Je me suis dit peut-être qu'ils étaient au courant de beaucoup de choses mais qu'ils n'ont pas osé m'en parler et ça m'a surpris aussi. Ouais.
Et l'épisode de la naissance, c'est un truc que moi je me rappelle quand j'ai entendu parler de toi quand j'étais ado, donc au milieu des années 2000 où tu arrives en équipe de France, c'est un truc qui ressortait vraiment tout le temps. Et j'ai eu l'impression que c'était. On parlait de toi plus pour ça. Que pour tes qualités de footballeur, je sais pas si tu as ressenti la même chose au bout d'un moment, parce que vraiment j'entendais vraiment tout le temps parler de Rio Mavuba, il est sur un bateau, etc., etc. Alors que tu étais joueur à Bordeaux, tu étais une étoile montante un peu du football français. Je sais pas comment toi tu l'as senti.
J'ai bien vu que ça intéressait, beaucoup les médias. Voilà, ça leur faisait une histoire justement. Une histoire, enfin une nouvelle histoire, une belle histoire à raconter, mais moi ça m'a surtout à un moment donné fatigué d'entendre ces mensonges, mais comment ça a été déformé, où on a l'impression que j'étais tout seul, que je suis arrivé tout seul, je me suis fait tout seul, alors que non, j'ai mes frères et sœurs, mes parents, j'ai beaucoup de gens qui m'ont accompagné, donc ça m'a surtout ça qui m'a dérangé parce que ça a blessé un peu même mon entourage, moi-même. Ouais. Mais bien sûr qu'à un moment ça m'a saoulé et puis c'est vrai que c'était normal qu'on en parle parce que je devenais professionnel et j'étais exposé mais après après ça m'a vite gonflé parce que on en parle une fois deux fois et après c'est bon faut passer à autre chose
quoi. Ouais, il fallait se concentrer sur le terrain.
Exactement.
Bon, on va revenir un peu à ton enfance. Donc tu arrives dans la région bordelaise, t'es à Mérignac, c'est ça?
D'abord Mont-de-Marsan, après Mérignac.
Mont-de-Marsan, après Mérignac. Bah, raconte-nous un petit peu comment c'était ton enfance, l'école, la découverte du foot. Tiens, tu découvres le foot, t'avais quel âge?
Je découvre le foot, je dois avoir 5 ans, 4-5 ans. Je jouais avec les copains en bas de la cité, quoi.
Comme
tout le monde. Hein. On faisait beaucoup de foot, ça jouait beaucoup, beaucoup. Après, la vie, non, c'était bien. Il y avait beaucoup de familles, on va dire, de familles... Ça venait de partout, hein. Ouais. Ça venait de partout. Il y avait des Cambodgiens, des Marocains, des Algériens, des Tunisiens, des Sénégalais. Ça venait de partout. Ça venait de partout. C'était bien. Je trouve que ce mélange a été enrichissant pour tout le monde. Hein. Un mélange de cultures. On découvrait l'autre. On s'acceptait. Donc voilà. C'était non. Franchement, moi, c'est pour ça que pour moi, j'ai pas vécu. J'ai jamais pris tout ce qui m'est arrivé comme un. Moi, j'ai toujours vécu normalement. Avec la chance de pouvoir être heureux même s'il m'arrivait beaucoup de choses difficiles mais j'ai toujours bien vécu quoi donc voilà franchement ça a été top et c'est que des bons souvenirs quand j'y repense et justement quand je vois tout ce qui se passe aujourd'hui alors aujourd'hui évidemment je suis plus dans une cité mais je me dis que c'est plus comme avant alors je vais pas passer pour le vieux con ou qui dit que c'était mieux avant mais j'ai l'impression que cet esprit de solidarité quand même il s'est un petit peu perdu.
Tu as l'impression que les gens se retrouvent moins entre eux, ils sont plus séparés, c'est l'impression que
aussi t'as, hein. Mais après c'est aussi l'évolution de la société, je pense que aujourd'hui on se préoccupe beaucoup, je pense encore plus de soi et on est moins peut-être porté vers les autres. Mais je le vois dans tout, hein. Je le vois, je l'ai vu dans le football. Je pense que c'est l'évolution, hein. C'est comme ça.
Quand tu dis que tu l'as vu dans le football, c'est-à-dire
mais pour donner un exemple, quand il y a des repas où toute l'équipe est conviée. Moi, quand je débute à Bordeaux, sur les 25 joueurs, peut-être il y avait un ou deux absents. Et aujourd'hui, quand j'ai vu la fin à Lille, quand on le faisait, s'il y avait 12 joueurs, c'était bien, quoi.
Ah ouais.
Ouais, donc tu vois, c'était. Il y avait moins cet esprit collectif, encore une fois, cet esprit de groupe. Ouais.
C'est marrant parce qu'on a reçu Charlie Tange il y a quelques semaines dans Banquette et il disait au micro que justement, on pensait que dans les vestiaires, les gens étaient unis, ils faisaient plein de trucs ensemble, mais lui, en fait, il déconstruisait ce mythe, entre guillemets, cette idée que bah, en fait, tout le monde est uni. Il disait que les gens tirent un peu dans leur sens, et beaucoup de guerre d'ego, pardon.
Oui, ça c'est sûr. De toute façon, je pense que le foot, c'est le sport collectif le plus individualiste, je pense. Ouais. On pense beaucoup à soi. Après, en même temps, c'est aussi normal parce que t'es en concurrence avec. Tu sais très bien que si toi t'es pas performant, ben il y en a un autre qui va prendre ta place. Donc oui, tu te soucies du collectif, ce qui est important pour gagner des titres. Faut avoir quand même une aventure collective. Ça c'est important. Mais évidemment que tu penses à toi. Alors. Moi, c'était différent parce que le capitaine, tu es obligé de penser à ce que l'équipe aille bien, mais évidemment que tu dois aussi te concentrer sur tes performances.
Ouais. Et pour revenir à l'enfance, tu jouais avec qui au foot ? Tu avais un ou plusieurs copains avec qui tu jouais vraiment tout le temps ? Ou tu jouais vraiment avec tout le monde ? Il suffit qu'il y ait un ballon et.
Bon, on jouait avec tout le monde. Après, j'avais mes grands frères qui étaient là. Ouais. Il y avait les grands frères des copains aussi. Après,
tes grands frères étaient dans le foot aussi ?
Ouais, ils ont tous joué au foot. Ouais. On est tous passés par là. Après, il y avait aussi un de mes meilleurs amis qui s'appelle Dari, un Cambodgien. Avec lui, on a beaucoup, beaucoup joué. Mais c'est vrai que il y avait tout le temps du monde. Hein. Moi, j'essaie toujours de jouer avec les grands. Mmh. C'est de me faire une petite place. Mais c'était pas toujours facile, mais ça va. Au fur et à mesure, ils m'ont accepté.
Comment t'as fait pour être accepté ? C'est quoi ce talent ?
J'avais le grand frère qui était là. J'avais le grand frère. Et puis après, quand il manquait un joueur, j'étais toujours là. Je traînais toujours. Donc, ouais. À un moment donné, je pense que je devais les fatiguer, mais ils m'ont laissé jouer.
Tu te rendais dispo, quoi.
Voilà.
Et tu parlais à un moment des réfugiés, des migrants. Est-ce que quand vous étiez gosse avec tes frères et sœurs, vous ressentiez le fait d'être réfugié politique ? Vous étiez réfugié politique, oui, c'est ça ? Est-ce que vous le sentiez, vous ?
Non. Franchement, encore une fois, je perds peut-être la tête. Mais franchement, non. Je te dis, j'ai jamais ressenti ça. À part vraiment à 14 ans, 15 ans, quand j'ai eu ce refus pour la sélection, où là, tu te dis, bon, là, t'es différent. T'es plus dans le même statut que tes potes ou que t'es pas français, quoi. Mais pour moi, c'était que des papiers, puisque j'ai grandi ici, j'ai fait ma scolarité, j'ai tout fait ici. Donc voilà, je me considérais toujours comme les autres. C'est juste que, voilà, mes papiers n'étaient pas les mêmes, mais j'ai pas vraiment ressenti un regard méfiant des gens. Ouais. Non, ça s'est jamais passé comme ça.
Au moment, dans le bouquin, tu dis que l'époque où tes parents et toi, t'es arrivé en France, et aujourd'hui, il y a une vraie différence. C'est-à-dire que tu trouves qu'à l'époque, c'est peut-être plus d'ouverture de la part des gens. Et aujourd'hui, tu trouves qu'il y en a beaucoup moins dans l'acceptance de ces réfugiés, de ces migrants.
Oui, je pense qu'il y en a moins. Après, il y en a qui se servent aussi de ça pour peut-être créer un climat de peur. Donc du coup, ça, ben, chez certaines personnes, on va dire, on se rétracte, on a moins envie d'aller découvrir. Donc voilà, parfois je peux comprendre que les gens, oui, parce qu'on montre certains événements qui sont pas bons, mais comme je dis toujours, des bons, il y en a partout, hein, et des mauvais, il y en a partout aussi. Donc c'est dommage, voilà, c'est dommage qu'il y ait cette situation-là, mais voilà, que faire.
Ouais, et tu dis que c'est un truc c'est une situation que tu suis beaucoup, qui te touche beaucoup. C'est un truc que tu suis, ce qui se passe en Méditerranée, même ailleurs, gens qui traversent l'Europe d'est en ouest. Ça, c'est vraiment un truc qui te touche énormément ?
Ben oui, ça me touche parce que ben, comme j'ai dit, ça aurait pu être ma famille ou moi et moi. Voilà, je me dis toujours que c'est. Voilà, quand on fuit son pays, c'est parce qu'il y a la guerre, c'est pour essayer de trouver de la sécurité, pour sécuriser sa famille. Voilà, c'est des gens qui veulent une deuxième chance, hein, qui cherchent une vie meilleure. Donc évidemment qu'il faut essayer de cadrer ça parce que voilà mais voilà ça me saoule, je regarde et je suis attentif à ça et je me dis juste que c'est dommage parce que c'est un truc qui dure quand même depuis de nombreuses années et on trouve toujours pas de solution. Donc voilà, hein, je suis pas politicien mais je pense qu'on peut réussir à aider, mais voilà, c'est compliqué. Ouais.
C'est un sujet dont tu parles à tes enfants, c'est un truc auquel tu veux les sensibiliser, ça ?
Non, pas encore, parce qu'ils sont...
Ils ont quel âge ?
Ils sont jeunes, hein. Ils 13, 8 et 2, même si celle de 13 peut être en âge de comprendre. Mais Je pense que j'emmènerai ça tout doucement.
Ouais, ouais. Ouais. Et ton histoire, et tu leur en parles aussi ou...
Ouais, ouais, je leur en parle. Je leur en parle, je leur donne des exemples. Je leur parle de moi quand j'étais à leur âge. Ils ont le bouquin, hein. Faut qu'ils lisent. Faut qu'ils lisent et qu'ils découvrent.
C'est comment tu leur fais faire découvrir la lecture à travers ton,
voilà,
ta biographie.
Bon, celle de 13, elle a déjà commencé. Celle de 8, il faut qu'ils commencent à lire bien aussi.
Ouais. Ouais, ouais, donc pas de BD, pas de manga, on lit la bio de papa, c'est ça?
Non, voilà, c'est ça.
Non, c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. Et il y a un truc aussi qui est important pour toi, que tu racontes beaucoup dans ce livre, c'est tes racines congolaises. Enfin, moi, j'ai toujours cru que tu étais angolais, en fait, pendant très longtemps. Les deux, d'accord. Et donc, c'est du côté de ton papa. Mmh. Ton papa est d'origine congolaise. Et donc, c'était le Zaïre à l'époque. Et en plus, il y a cette filiation par le foot, parce qu'il a été joueur de l'équipe nationale. Est-ce que quand tu étais plus jeune, quand vous étiez plus jeune avec tes frères et sœurs, c'est quelque chose dont il vous parlait, de son passé de footballeur?
Non, pas énormément. Pas énormément, c'est plus les gens qui en parlaient, les amis, les oncles, les tantes, enfin plus les oncles qui parlaient de lui.
Il disait quoi? Il disait, ouais, tu sais, ton papa, lui, il était...
Ouais, ouais, ouais. Il appelait le sorcier, hein.
Ah ouais?
Le sorcier.
Pourquoi le sorcier?
Hein?
Pourquoi le sorcier?
Parce qu'il mettait des corners entrants et apparemment, quand il tirait corner, il sortait un mouchoir... Ah, tu connais, ça fait partie des légendes, sûrement. Ouais. Mais tout le monde me raconte ça. Donc, je me dis, même aujourd'hui, quand je croise des gens dans les gares ou quoi, qui me disent, ah, j'ai connu ton père, on l'appelait le sorcier, il sortait le mouchoir avant le corner. Donc, je me dis, bon, ça a été au-delà de la légende, hein. Mais,
ouais.
Mais ouais, il mettait les corners rentrants. Donc, voilà, je sais que c'est un grand nom, à Kin, enfin, au Congo, au Zaïre. Ça fait plaisir. En tout cas, ça fait toujours plaisir d'entendre des bonnes choses comme ça. Malheureusement, j'ai pas pu voir, mais bien sûr que ça fait toujours chaud au cœur quand on
entend
ça.
Ouais, il te parlait du Congo, enfin du Zaïre de l'époque en général.
Il m'y a emmené.
Ouais, t'avais quel âge quand
j'avais 11 ans, 10 ans, 11 ans. Ouais. Mm-hmm. Et je pense que le fait qu'il m'y a emmené, ça m'a permis d'avoir cette attache là, tu vois. Mm. Parce que je me dis que voilà, je pense que dans la vie comme ça, il y a des signes. Et s'il m'y a emmené, c'est que moi je devais retourner faire quelque chose. Et si aujourd'hui, ben on a l'orphelinat, justement les orphelins de Makala, je pense que c'est aussi grâce à ça le fait qui m'est sensibilisé. Ouais.
Mm-hmm. Et qu'est-ce que tu te rappelles de ce voyage, ce premier voyage au Congo? Quels sont les souvenirs marquants qui te restent aujourd'hui?
On était très nombreux, hein, à la maison. Ouais. ça m'avait marqué. On était très nombreux, mais c'était des choses simples. Hein. Voilà, le matin, t'allais acheter ton pain, tu mangeais ton pain, ton beurre, ton lait. Tu vois, c'était très simple. Et quand t'avais un gazeux, je me rappelle, tu vois, ces bouteilles en verre encore, qui se font plus, mais qui se font toujours. Ça avait marqué. Puis le nombre d'enfants aussi. On jouait tous au foot. Il y avait beaucoup, beaucoup d'enfants dans les rues. Ça m'avait marqué aussi. Ouais.
Et donc, tu l'as dit, je l'ai dit aussi un petit peu, ton papa était footballeur, il a joué pour la sélection nationale. Et c'est la première équipe d'Afrique noire à participer à une Coupe du Monde en 1974. Ça, c'est un truc, même ça, il ne vous en a pas parlé, si je suppose qu'un petit peu, non?
Non, même pas. Alors, peut-être qu'il en a parlé au plus grand, mais moi, je n'ai pas le souvenir. Mais évidemment que oui, fierté de savoir qu'il a fait partie de la première équipe d'Afrique noire à participer à une phase finale de Coupe du Monde. Mais déjà qu'il ait fait la Coupe du Monde, c'est ouf. Et évidemment, quand j'ai appris ça, même après, ouais, j'étais...
Tu l'as appris grâce à tes oncles, tes tantes, tout ça aussi?
Oui, grâce... Mais ça, quand je l'ai appris, il était encore avec moi. Hein. J'ai appris, j'ai découvert même dans les DVD, Enfin, dans les cassettes plutôt. dans les cassettes. Donc voilà, ça m'a fait... je sais pas, de te dire ça, tu vois, c'est ouf. Et puis moi, j'en ai pris conscience quand j'ai commencé à être pro. C'était un de mes objectifs aussi. Ouais.
De jouer une Coupe du Monde,
ouais.
Que tu as joué, on en reparlera, je pense, un peu plus tard, en 2014. Donc du coup, avec l'équipe de France. Et toujours pour rester dans le Congo, tu y retournes plus tard en 2009, c'est ce que tu écris. Et c'est là que tu décides de monter ton association Les Enfants de Makala. Ça a été quoi le déclic pour monter cette structure?
Bon, j'étais retourné avant 2009. Hein.
Ouais.
Mais le déclic, c'est que j'avais toujours voulu, on va dire, rendre un hommage un peu à mon père là-bas, à Kinshasa. Et au début, on voulait faire un centre de formation. Mais on s'était dit que c'était dommage parce qu'on aurait... Comme je dis toujours, même si ça se développe de plus en plus, hein, mais ça aurait peut-être touchait plus que des petits garçons. Et puis après, on s'est dit, bon, mais avec tous les enfants qui traînaient, c'était peut-être mieux de faire un orphelinat. Mmh. Et puis aussi avec mon histoire personnelle. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses. Et on s'est dit, ben voilà, on va faire un orphelinat là-bas.
Donc, Banco, voilà. tu montes le projet. Tu es tout seul dessus, non?
Non, je ne suis pas tout seul. Mmh. Il y a deux assos, il y en a une en France et une à Kinshasa, au Congo. Mais non, on est en tout cas de l'idée de base en France, on était deux ou trois à vouloir le faire. Et puis après, il fallait trouver les bonnes personnes. C'était long à se mettre en place. Hein.
Ouais. Est-ce que tu peux expliquer concrètement, en quelques mots, en quoi ça consiste pour les gens qui ne connaîtraient pas
ton asso? Pour faire simple. On essaie d'aider les enfants à avoir une vie, entre guillemets, normale. Mmh. On essaie de les aider pour qu'ils aient la nourriture, la scolarité, les loisirs, les soins médicaux. Enfin, voilà, déjà, qu'ils aient ça, nous, on a la chance d'avoir, d'avoir ici. On essaie de leur donner ça. Après, on les accompagne aussi, évidemment, après leur majorité. Pour qu'ils trouvent un travail et qu'ils trouvent un logement. Donc, on essaie de le faire de les accompagner le plus longtemps possible. Et évidemment que c'est compliqué parce qu'au départ, pour les faire entrer, il faut faire des enquêtes, des enquêtes qui sont importantes pour être sûr que les enfants sont bien orphelins. Mmh. Parce que malheureusement, à la base, c'est aussi une porte de sortie pour eux. Donc parfois, on a eu des parents qui nous ont emmené leurs enfants. Ou des mamans seules, tu vois, qui nous emmenaient leurs enfants, mais malheureusement, on pouvait pas les garder parce que c'est un orphelinat et il faut s'occuper d'orphelins. Et il y a beaucoup, beaucoup d'enfants. On le fait à notre niveau, mais il y en a beaucoup, beaucoup qui traînent dans les rues, malheureusement.
Mmh. Et pour financer ce projet, comment ça se passe concrètement? Je sais que tu as fait beaucoup de concerts quand tu étais à Lille. Aujourd'hui que t'es plusieurs professionnels, comment tu comptes faire du coup pour pérenniser un petit peu le...
Ce qu'on a fait, évidemment il y a eu des dons personnels, après il y a des gens aussi qui nous aidaient, évidemment on a fait plusieurs événements, notamment le concert qui continue, quand j'étais à Prague on l'a quand même fait à Lille, et là cette année on est parti pour le refaire le 18 mars au Zénith de Lille toujours, donc ça continue et c'est une part importante des besoins qu'on a pour ça représente quasiment une demi-année des frais qu'on a besoin pour
Juste un concert avec plein d'artistes, plein d'artistes
juste c'est compliqué.
Ah ouais,
toi t'as dit juste un concert mais c'est compliqué.
J'imagine même parce que c'est un grand truc, c'est comme tu le dis, c'est devenu un vrai événement dans l'île, quoi, dans le calendrier lillois, c'est limite devenu un vrai événement, quoi.
C'est vrai que c'est devenu un vrai événement où on n'a pas envie de décevoir, on essaie toujours de faire un gros plateau, mais bon, après, on n'est pas à l'abri des calendriers des artistes, donc c'est là où c'est compliqué à gérer, mais généralement, quand même, les Lillois répondent présents et ils viennent soutenir cette cause. Enfin, pas que les Lillois, d'ailleurs, les gens qui... Évidemment, en nombre, les Lillois, mais les gens même de Belgique qui viennent et des alentours qui viennent nous soutenir. Mais voilà, c'est pas simple, on a toujours besoin de soutien, d'aide, et on espère qu'on pourra remplir le Zénith encore.
On va enchaîner sur le racisme avant de rentrer directement dans le football professionnel. C'est ce que tu en parles et j'étais pas du tout au courant de ces histoires-là. Et en vrai, il y a pas beaucoup de, même si on va en parler un petit peu, il y a pas beaucoup de joueurs qui parlent ouvertement du racisme qu'ils ont vécu. Toi, tu le dis que tu le découvres pour la première fois quand tu es joueur professionnel à Bordeaux, quand tu joues à Paris au Parc des Princes. Était pas loin de la tribune des Boulogne Boys. Et en fait, tu t'entends des cris de singe. T'avais quel âge à ce moment-là?
Je devais avoir 19 ou 20 ans.
Ouais. Et comment ça se passe dans ta tête quand t'as 19-20 ans, t'es dans un stade de foot, t'es en train de faire ton métier et en fait, on te balance des cris de singe. Comment tu réagis à ce moment-là?
T'es surpris, étonné d'entendre ça. Tu te demandes si c'est vrai. Et après, tu essaies de faire abstraction et de rester concentré sur ton match. Hein. Voilà, à ce moment-là, surtout que moi, je débutais, peut-être faire un maximum un ou deux ans que je jouais en pro. Mmh. Voilà, j'essaie vraiment de faire abstraction, de pas calculer ce qu'ils font. Ça n'a pas été comme... j'ai vu justement le reportage dernièrement. Ouais. Ça n'a pas été comme ça s'est pu se passer pour Balotelli ou des Eto'o où c'est... toute une tribune qui va fort, mais tu l'entends quand même. Et c'est choquant, ouais, c'est choquant parce que tu comprends pas.
Et t'en parles à tes coéquipiers sur le coup ?
Non, même pas, je pense pas. Je pense pas parce que après tu te renseignes un petit peu, tu es au courant qu'il y a une partie de cette tribune qui est. Enfin, une partie du stade qui est. Une tribune, pardon, qui est comme ça. Et j'en ai pas parlé. Je me dis, moi j'arrive, c'était peut-être avant. Je me dis pas qu'il faut pas que ça vienne après ou faut pas en parler, mais c'est vrai que j'ai fait abstraction et après c'est vrai que t'enchaînes les matchs et j'ai pas vraiment fait attention. Et j'étais peut-être plus jeune. Peut-être que si ça m'était arrivé à un âge plus avancé, peut-être que ma réaction était différente. Ouais.
Et ça t'était jamais arrivé dans un autre stade de France, même après, ça t'était jamais arrivé après
non,
un autre stade
pas.
De France, non ?
Non, non.
Non, et tu savais que ça pouvait, que ça existait, ce genre de comportement en France ?
Non, 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 je le savais pas. J'ai découvert. Ça m'est arrivé en Espagne, mais je l'ai su après. C'était indirectement. Pendant que je m'échauffais, apparemment, il y avait un supporter qui, pareil, qui devait faire des insultes et tout. Mais lui, il a été dénoncé par d'autres supporters et du coup, il s'est fait virer du stade. Et je crois qu'il avait pris 2 ans de suspension. Mais ça, c'est bien. C'est aussi les autres supporters qui assument, qui prennent leur responsabilité, qui dénoncent, parce que parfois il y a des supporters qui entendent et qui disent rien. Et là, au moins, ils ont peut-être tous assumé. Moi, ça fait un idiot de moins au stade.
Ouais. Et tu comprends ces joueurs qui, quand ça arrive, décident d'arrêter de jouer. C'est
carrément. Ah oui, carrément. C'est pour ça que je te dis, si j'avais été à un âge avancé, peut-être avec plus d'expérience, ou si c'est vraiment. Alors, on doit pas supporter un ou sans cri. Il n'y a pas de différence. Mais je pense que tu n'entends pas pareil. Et eux, ils ont vécu. Vraiment des tentatives de déstabilisation de fou, donc je peux très bien l'entendre. Ouais.
Pourtant, il y en a qui disent, je donne mon avis, que je ne partage pas, leur avis, pardon, ils disent que la meilleure réponse à donner, c'est sur le terrain, mais on peut aussi comprendre que c'est aussi très humain de ne pas vouloir continuer à se faire traiter de singe ou recevoir des pots de banane comme ça, juste d'arrêter de jouer.
Mais c'est sûr que... Ça, si tu marques ou si tu joues bien, c'est sûr que ça va faire encore plus chier. J'ai pas de mots pour les décrire, ça c'est sûr. Mais évidemment qu'à un moment donné, ça peut devenir insupportable, ça je l'entends.
Ouais.
Si c'est tout le temps, dès que tu touches le ballon, t'entends des trucs, je comprends tout à fait. Et ce que je comprends pas, parfois justement, c'est le manque de solidarité. Quand ça arrive, que je vois des joueurs qui soient noirs ou blancs ou ce que tu veux, jaunes, verts, qui disent aux joueurs « ben non, il faut continuer », ça pour moi, ça me fait encore plus mal parce que je me dis au contraire, il faut être solidaire avec la personne qui subit ça. Et si justement, s'il y a plus de solidarité, peut-être que les gens, ils se poseront des questions.
Il faudrait quoi ? Il faudrait que toute l'équipe se désolidarise se solidarise avec le joueur
ouais, je pense.
Insulté, je pense quitte le terrain.
Je pense, et pas que les joueurs, même les clubs aussi, ils doivent suivre. Parce que j'avais entendu ça, je ne sais plus si c'est Eto'o qui dit ça. Si un jour, on se met en mode gilet jaune, tous les joueurs de couleur, ils font la grève. Qu'est-ce qui va se passer ?
Ah ça. Et le pire que tu vis, je crois, c'est quand tu vas en République tchèque, à Prague. Et moi, ça m'a vraiment choqué, c'est d'apprendre que, à un moment, vous allez saluer les supporters après un match et on vous tapez dans la main des supporters. Et quand c'est ton tour, en fait, t'en as quelques-uns qui retirent leur main.
Ouais.
T'avais jamais vécu un truc comme ça, vraiment, de toute ta vie ?
Non, de toute ma vie, j'ai jamais vécu ça. Et comme t'as mimé, ça faisait ça, ouais.
Ah, c'était vraiment.
Ça retirait les mains, ça devait parler, sûrement insulter, ou je sais pas ce qu'ils disaient, je comprenais pas. Mais ouais, ça c'était. Pour moi, c'est le truc que j'ai vécu le plus choquant au niveau du racisme, parce que là, tu comprends. Là, franchement, j'étais. Puis après, tu te dis, est-ce que c'est que toi ? Parce qu'au début, tu peux te dire peut-être que le mec t'aime pas, en tant que joueur. Mais après, quand à la fin, j'attendais les autres joueurs et qu'ils te disent, ouais, moi aussi, il y a des mecs qui m'ont. Là, tu te vois, c'est ça, c'est même pas une sorte de joueur, c'est du racisme, tout simplement.
Ouais.
Et puis, non, mais c'était. Puis après, derrière, on n'a plus jamais renouvelé l'expérience. On s'est dit, stop, quoi.
Et t'as aussi tes coéquipiers, je crois, t'es pendant un match, tu entends des cris de singe, si je ne me trompe pas. Et tu vas voir un de tes coéquipiers en lui disant, mais qu'est-ce qui se passe ? Et il te dit, non, en fait, c'est comme ça, enfin voilà, il y a rien à faire, comme s'il était résigné, quoi. C'est, je trouve ça vraiment le plus triste, en fait. C'est-à-dire que bah, c'est tellement banal qu'en fait, il est devenu résigné.
Ouais, il est devenu résigné. Et je pense que lui, ouais, ça a été... lui, ce qu'il se disait, c'est que voilà, je ne lui prêtais pas attention et il essayait de continuer. Mais pourtant, comme il m'a dit, lui, il avait signalé à l'arbitre. L'arbitre lui disait, non, allez, on joue, tu vois. Donc, c'est sûr qu'on... si tu n'as pas d'aide non plus des... voilà, du corps arbitral ou de ton club, c'est compliqué de faire quelque chose.
Si demain, tu étais entraîneur et que ça arrivait à un de tes joueurs, tu arrêterais le match ?
Franchement, ouais, c'est possible. Quitte à perdre 3 points. Parce que j'ai vu que c'était arrivé à Koulibaly au jour de Naples.
Ouais.
Et Ancelotti, justement, je trouvais qu'il avait une belle réaction. Il avait dit... il a dit qu'il avait la prochaine fois il arrête le match.
Il avait demandé 3 fois à l'arbitre d'arrêter.
Ouais, il a demandé et puis ils l'ont pas fait. Et après, quand j'ai vu la déclaration, je me trompe peut-être, du président peut-être de la Fédé italienne qui dit ça sera 3 points de perdu. Enfin, je pense que là c'est au-delà du football, au-delà des matchs, quoi. Faut justement que tout le monde prenne ses responsabilités. Et moi, sûr, si un jour je suis entraîneur que ça arrive, si un joueur qui fait ça, évidemment que je me montrerai solidaire du jour.
Ouais, et cette question de racisme, c'est un truc dont tu parles aussi à tes enfants ou...
Ça j'ai déjà pu s'évoquer. Bah, évidemment, je leur pose des petites questions sans vraiment en parler, mais je leur pose des questions. C'est faut savoir aussi, parce que j'entends des histoires autour de moi, donc forcément, t'as envie d'être sûr que ça se passe bien pour tes enfants et savoir comment ils vivent la chose.
Et pour l'instant, de ce qu'ils te disent, ça va bien?
Ouais, pour l'instant, il n'y a jamais eu d'événement, même à Prague. Hein.
Ouais.
C'est pour ça que c'est souvent une bêtise, on va dire, d'adulte ou ce qu'on t'inculque. Parce que quand tu nais, personne n'est raciste. Et c'est ce qu'on veut te faire croire, ce qu'on t'apprend, malheureusement.
Ouais, effectivement. On va retourner vraiment dans le sportif. On va commencer par Bordeaux. C'est ta ville, c'est ton club. Le truc le plus marrant que j'ai lu, je crois, dans le bouquin, c'est que tu dis vers 16-17 ans, tu dis « Ah, peut-être que je vais signer à Bordeaux, comme ça, ils pourront peut-être m'aider à trouver un travail à la mairie. » En fait, ton ambition, c'était de devenir fonctionnaire, c'était ça ton truc.
Non, c'était pas vraiment signer au Girondin pour trouver un budget.
Ouais.
Je me disais, si j'ai la chance de signer dans un club grâce au foot,
ouais,
de trouver un club, on va dire, comme je joue là aujourd'hui à Arlac, et d'avoir un travail à côté, ouais, ça aurait été bien, ça aurait été pas mal. Parce que j'aurais trouvé un métier grâce au foot, tu vois.
Ouais.
Mais ouais, c'est vrai que je me posais pas vraiment la question. Peut-être que je voyais pas en moi le potentiel disant, ouais, je peux être pro ou quoi, mais c'est vrai que c'est vraiment arrivé tout ça sur le tard.
Ouais, c'est vrai que, comme tu dis, c'est arrivé très très tard. C'est pas un truc qui a guidé, entre guillemets, t'es pas dans le milieu du foot, c'est...
Peut-être inconsciemment, je sais pas. Après, j'aime ce sport, j'aime ce métier, j'aime tout ça, peut-être que j'espérais, mais je me suis jamais dit, tu vois, depuis tout petit, je vais devenir footballeur professionnel, c'est ma vocation, j'aimais le foot, je continuais. J'ai jamais été le meilleur, j'ai été surclassé, pareil, sur le tard, mais pendant toute ma période de jeunesse, j'ai pas été surclassé comme certains de mes coéquipiers pouvaient l'être. Donc voilà, c'est arrivé sur le tard et tant mieux.
Ouais, et tu vois la différence avec les plus jeunes, ceux que tu as pu côtoyer à Lille par exemple sur la fin des années lilloises, qui eux peut-être se rêvaient professionnels plus tôt. Tu sens une petite différence par rapport à ça?
Ouais, mais après c'est même pas qu'à la fin de Lille, il y a certains joueurs qui eux savaient qu'ils allaient être pro et qui vivaient que par ça et qui espéraient que ça. J'ai grandi avec Mathieu Valbuena.
Ouais.
Lui, depuis tout petit, lui c'était que le foot. Et il a réussi parce que justement, je pense qu'il avait cet amour là et dans sa tête c'était son objectif. Parce que même quand il se fait virer des Girondins, lui il repart vraiment dans le milieu amateur et puis il arrive après derrière à faire tout ce qu'il a fait. Chapeau. Et c'est parce que lui, depuis tout petit, il était en mode...
C'était que le foot, ouais.
Ouais.
Et tu supportais Bordeaux, du coup, je suppose, quand t'étais jeune, ouais. Ouais. C'était quoi ton meilleur souvenir de supporter? Me dis pas 99, hein, parce que mon supporter de l'OM, c'est des Pyrénées. Donc tu peux dire avant ou peut-être après, mais...
Non, c'était... figure-toi que j'ai vu qu'un très beau Bordeaux-Marseille. On gagne 4-1.
Ouais, je me rappelle. Ouais.
Tu te rappelles, voilà. C'était un boom. Non, mais ça reste quand même l'épopée qu'ils font en 96. Bordeaux-Milan AC, c'était...
Contre, en Coupe de l'UEFA.
L'UEFA, c'était l'épopée. J'ai fait tous les matchs.
T'étais au stade aussi.
Ouais, j'étais au stade. Pour Bordeaux-Milan, puis pour Bordeaux-Prague aussi, Slavia, en demi-finale. Puis après, aussi pour la déception contre le Bayern, parce qu'à l'époque, c'était les finales aller-retour. J'ai fait cette épopée-là, ça reste quand même le plus beau souvenir. Mais plus grand quand même, c'est vrai que ce Bordeaux-Marseille... Non, parce que là, on était ramasseurs de balles. c'était différent, tu vois.
C'est pour ça.
Ouais, c'était différent. Ouais. C'était la guerre. Enfin, tu vois, ils jouaient le titre les deux équipes. Et au bout d'une demi-heure, je crois, il y avait déjà 3 ou 4-0. Donc, c'était vraiment un beau souvenir.
Ouais, c'était qui les joueurs qui te faisaient rêver aux Girondins?
Bah, il y en a un qui a fait rêver pas plus que les Girondins, c'est Zizou.
Ouais.
Même si t'es pas le Zidane qu'on a connu après, mais déjà à Bordeaux, c'était déjà voilà, quand il y avait un coup franc, on va mettre, c'est que c'était pour lui, c'est que voilà, il t'enchantait quoi. Mais sinon à mon poste, j'ai quand même aimé beaucoup Michel Pavon, qui était capitaine. Qui était mon coach aussi, qui m'a lancé en Ligue 1. Qui a été le capitaine du titre en 99, Peter Luxin, Smertin, Costa, avec qui j'ai joué après. Et je regardais quand même beaucoup de joueurs qui étaient à mon poste.
Ouais, forcément. Et pourquoi milieu défensif? Est-ce que c'est les entraîneurs au fil de ton avancée dans le foot qui t'ont mis là? Ou
Toi,
tu avais l'ambition de jouer peut-être un peu plus haut ou plus bas?
Non, c'est les entraîneurs qui m'ont mis là. J'avais joué défenseur central, j'ai joué 8, plus relayeur.
Et, jamais attaquant? J'ai
fini 6. Non, jamais attaquant. Pourtant, j'ai marqué en jeune, j'ai marqué.
Ah ouais, ouais. Tout le monde marquait en jeune. Ça, tout le monde te dit, ouais, j'ai marqué en jeune.
Non, j'ai mis des beaux buts en jeune.
Ah ouais.
Mais non, milieu défensif tout le temps, ouais.
Ok, c'est là où tu t'es installé.
Ouais.
Et tu commences vraiment ta carrière de professionnel en 2004. C'est un match de Coupe de France contre Liban de Saint-Seurin. Donc, c'est pas très, très loin en plus.
Ouais.
À ce moment-là, tu dis, ça y est, je suis pro, là, c'est... C'est le début ou c'est la fin? Tu dis c'est le début de l'aventure
je
ou
dis
c'est
pas,
là?
Ça y est, après le match contre Libourne, ça a vraiment pris le week-end d'après, quand j'ai fait mon premier match en championnat.
Ouais.
Parce que contre Libourne, pour moi, en tant que Bordelais, et vu que je suis passé par la réserve, j'ai déjà joué en jeune.
Ouais.
Donc, c'est pas vraiment un match, même si tu joues à Chaban Delmas, c'est le stade des pros, mais c'est pas vraiment un match, tu sais, t'as pas la. Et pourtant, tu joues, t'es entouré de pros, là. Au contraire de quand je jouais les Bourne à l'époque avec les jeunes, là t'es entouré de pros, donc déjà c'est particulier, mais c'est pas vraiment. En tout cas, c'est le match qui m'aura lancé, puisque derrière j'ai la chance de jouer à Montpellier. Là vraiment, tu passes dans une autre sphère.
Mais le fait de jouer Libourne, un club que tu connais bien, contre des joueurs que tu connaissais bien, parce que pour les avoir déjà joués, en Coupe de France, est-ce que justement t'avais moins de pression, tu y allais un peu plus tranquille?
Ça m'a peut-être aidé, oui.
Ouais.
Peut-être aidé de. C'est comme si je jouais un match régional, tu vois, un match que je jouais avec la réserve, c'est sûr. Mais bon, la pression était quand même là. T'es à Chaban, t'es avec les pros. Voilà, même s'il y avait d'autres jeunes qui ont percé en même temps que moi, on se retrouvait, mais la pression est quand même là. Ouais.
Et donc après, tu joues en Ligue 1
à Montpellier, et c'est mon premier match, mon premier but aussi en pro. Donc tout ça, c'est super bien enchaîné.
Tu te rappelles de ce but?
Ouais, je m'en souviens très bien. C'était avant la mi-temps. J'étais un peu sur le côté droit, peut-être à 25-30 mètres, je frappe. Et donc elle flotte un peu, le gardien la touche et elle rentre. Voilà, j'étais surpris, je te dis, j'étais choqué. J'étais choqué. Et je pense que même les gens, ils pensaient que j'allais en mettre beaucoup. Et derrière, au final, j'en ai mis qu'un que j'en ai.
En même temps, vu ton poste, c'est pas.
Ouais, mais quand même, j'aurais pu en mettre un peu plus quand même.
Ah ouais, tu penses?
Quand même.
Mais dans la prépa, Rudy Garcia dit que justement, il te chambrait avec le staff pour que tu montes un peu plus. Ils avaient fait un pari pour que, comme quoi, tu n'avais pas marqué du tout avec Lille. Et finalement, tu marques un but hyper important. Mais je pense qu'on y reviendra après, qui donne quasiment le titre à Lille.
Ouais, un titre qu'on a pris sur Marseille. Ouais.
Ouais, encore une fois, toi, t'es... Ok, j'ai compris que tu voulais me faire, il n'y a pas de souci, on va régler ça après. On va couper les micros, on va régler ça.
Octogone.
Octogone sans règle, t'inquiète pas. On peut même faire ça en France, on pas besoin d'aller en Belgique. Et il y a un truc aussi qui est marquant, c'est qu'on te donne le brassard à 20 ans, je crois que c'est ta deuxième saison. Je crois que c'est Ulrich Kramer, qui était pas dispo. Et donne le brassard à 20 ans, tu dis genre pourquoi moi ou
tu dis C'est que vraiment, le Michel Paron, il croyait en moi.
Ouais.
Il croyait en moi. Mais il m'avait dit, lui, déjà, à l'époque, qu'il fallait que je... Vu mon poste, il fallait que je sois un peu un... Puisque tu es au contact de tout le monde, hein, défenseur, attaquant, milieu. Qu'il fallait que je sois, que je sois quelqu'un qui parle, qui guide. Parce qu'on est vraiment au cœur du jeu, on sent les choses. Et je pense qu'il m'a responsabilisé. Et vu que je l'avais été en jeune quasiment tout le temps... Ben, je trouve que ça a été une bonne chose. C'est vrai que, évidemment, ça te met dans le devant de la scène. Mais voilà, moi, je l'ai très bien pris et je l'ai plutôt pris comme une marque de confiance.
Ouais, est-ce que moi, quand j'ai vu ça, je me suis peut-être plus dit que c'était une manière de te faire goûter un peu au capitanat, au leadership, sachant qu'après, Ramé, elle a récupéré son brassard, il n'y a pas de souci. Juste une manière de dire voilà, je pense que dans les années à venir, tu vas le devenir. Mais apprends peut-être. Moi, je l'ai plus senti comme ça.
Oui, c'est comme ça. Je pense que c'était le message qui m'a envoyé. Ouais, c'est clair.
Et pourtant, tu reçois ce brassard lors de cette deuxième saison, mais pourtant, c'est un peu plus compliqué parce que Bordeaux continue de recruter des milieux de terrain, des joueurs qui jouent dans la même zone que toi, limite à ton poste. Tu as dû te battre. Ça n'a pas été facile. Comment tu vis ça, justement, le fait que le club continue de recruter des milieux de terrain
Ben, quand t'as 21 ans ou 20 ans, que t'es un peu l'enfant du pays, l'enfant du club, et que tu vois tu comprends pas trop. Franchement, tu comprends pas. Mais avec du recul, tu comprends parce qu'un club a besoin d'avoir beaucoup de joueurs. En plus, on a commencé à jouer la Coupe d'Europe. Donc, tu peux le comprendre. Mais moi, c'est sûr qu'à ce moment-là, j'étais intérieurement, j'étais fou un peu.
Ouais.
J'étais fou, je comprenais pas. J'avais l'habitude de jouer quasiment tous les matchs et parfois je devais m'asseoir.
Ouais.
Donc ça m'a frustré, beaucoup de frustration. Mais avec le temps, tu comprends que les entraîneurs, ils ont besoin d'avoir un effectif où il y a beaucoup de joueurs et que peut-être que l'entraîneur qui est arrivé donc après Pavon, donc Ricardo a voulu aussi me titiller, me faire bouger et que je sorte peut-être de mes même si j'étais jeune et ça faisait que 2 ans que je jouais, peut-être un peu de mes acquis puisque je jouais quasiment tout le temps.
Il t'en parle, il te le dit ça ou
non, il m'en parle pas, donc c'est ça, peut-être ça aussi qui a été compliqué, le fait d'avoir moins de communication. C'est vrai qu'avec Pavon on parlait et c'est vrai qu'avec Ricardo on a moins parlé, on va dire. Donc peut-être que ça aussi ça m'a, entre le fait de pas jouer, de pas avoir forcément de discussion, ça m'a peut-être
Mais t'as sollicité le dialogue avec lui ou
Je sais même plus à l'époque.
Ouais.
Je sais même plus.
Quand le boss était parti le voir pour lui dire.
Mais je pense que même quand tu pars, moi je suis un peu déçu même de lui. Mais après, avec le temps, quand je l'ai revu là, quand je commentais mon premier match à Prague des Girondins et que lui était de retour, mais je l'ai revu avec beaucoup de joie. Et puis avec le temps, tu comprends que c'était peut-être aussi un message qui te faisait passer aussi. Ouais.
Et qu'est-ce qui fait que tu quittes Bordeaux finalement en 2007, c'est ça?
Ouais. Non, j'ai envie de voir autre chose.
Ouais.
Envie de voir autre chose, un nouveau challenge. J'avais gagné en plus la Coupe de la Ligue avec mon club formateur. Je me suis dit que c'était peut-être le bon moment pour partir. Et puis finalement, je ne sais pas si j'étais au bon endroit.
Ouais, c'est vrai que tu vas à Villarreal. Je pense qu'on ne va peut-être pas trop en parler parce que Lille, tu restes 10 ans, donc ça prend une grande place quand même. Mais est-ce que tu n'as pas le regret, au vu de la carrière que tu as fait à Lille, de ne pas être imposé dans ton club formateur, le club de ta ville, ou c'est pas grave, tu as fait ce que tu avais à faire, tu as fait ton temps?
Ouais, non, j'ai fait, franchement, non, je pense que c'est bien comme ça s'est passé. Si j'ai un regret, c'est peut-être de ne pas avoir pu avoir une bonne expérience à l'étranger.
Ouais.
Mais sinon, non, je trouve que c'est bien. J'ai peut-être eu un petit regret quand même en quittant Bordeaux, parce qu'on gagne la Coupe de la Ligue en 2007 et en 2009, ils font champion.
Ouais.
Là, tu te dis, bon, peut-être qu'en restant une année plus ou 2 années, tu aurais pu être champion de France, mais on a rétabli le truc avec Lille.
Oui.
Et je trouve que c'est, pour moi en tout cas, parce que Bordeaux, on va dire, c'était un club plus régulièrement champion, et Lille, ça faisait 50 ans qu'ils n'avaient pas gagné de trophée. Donc, donc quelque part, en termes d'émotion, c'était peut-être encore plus bon. Puis en plus, on fait le doublé.
Ouais.
Donc c'était peut-être encore plus beau dans une ville déjà qui n'est pas la tienne forcément et qui n'avait pas gagné de titre depuis 50 ans. Donc donc ça, là, à partir de ce moment-là, il n'y a plus de regrets du tout.
Ok. Ouais, donc tu arrives à Lille en 2001, donc tu fais en fait que 6 mois à Villarreal, ça se passe pas très bien. Le coach te dit à un moment, tu comprends que c'est le directeur sportif qui te fait venir et pas le coach. Il te dit que en fait, tu vas pas jouer.
Ouais.
Donc tu sollicites un retour en France, tu vas à Lille et au final, tu restes 10 ans, 10 saisons.
Ouais.
C'est énorme. enfin dans le football moderne, c'est quand même, ça reste quand même énorme de rester autant dans un club. Est-ce qu'on peut dire que c'est aujourd'hui ton club de cœur ou c'est le deuxième club de cœur? C'est entre Bordeaux et Lille, c'est comment le classement?
Bordeaux et Lille, c'est kiff-kiff. Hein.
C'est kiff-kiff.
Ouais. On me demande souvent ça.
Ouais.
Mais non, parce que Bordeaux, c'est club formateur.
Ouais.
Sans Bordeaux, j'atterris pas à Lille. Hein. Mm. Donc, c'est quand même le club qui m'a lancé, qui m'a formé, qui m'a fait devenir un homme, qui m'a fait devenir international. Donc, je peux pas oublier tout ce qui s'est passé avec les Girondins. Mais évidemment qu'en termes d'émotion sur le terrain, j'ai vécu de mes plus belles années aussi à Lille.
Ouais.
Donc voilà, c'est kiff-kiff.
Pourtant, quand tu arrives, Lille, ils sont un peu en mauvaise posture. Ouais. Ils sont 15e, je crois, du championnat. C'est Claude Puel, l'entraîneur. Et son discours te donne envie d'aller dans le nord, dans le froid.
Ouais. T'es réducteur, hein.
Très.
Non, mais c'est vrai que... Ouais,
j'adore Lille, en plus.
Fait de, le fait de bosser avec Claude Puel, qui est un des meilleurs entraîneurs français, ouais, c'est surtout ça qui m'avait motivé, plus que d'aller à Lille spécialement.
Ouais.
C'était le fait de travailler avec cet entraîneur-là, et ça s'est très bien passé. On finit septième, je crois, en six mois, on remonte. On a failli finir européen. Et voilà, le fait de le connaître lui, de connaître le club, les ambitions du club. Il parlait beaucoup de ce nouveau stade aussi. Mmh. Voilà, je sentais que c'était un club qui était ambitieux, qui avait envie de grandir. Et puis j'ai aussi vu le potentiel des joueurs.
Ouais.
Et c'est ça qui a fait que quand Rudy Garcia est arrivé derrière, je me suis dit pourquoi pas partir là, sachant qu'on avait bien fini et que je sentais qu'il y avait un beau potentiel.
Et pourtant, après ces six mois à Lille, donc tu dis c'est Rudy Garcia qui arrive. Et il le raconte dans la préface. Limite, il fait un forcing pour que tu restes, que tu avais des offres d'autres clubs. Il y avait Marseille notamment, je crois.
J'avais des discussions, ouais.
Ouais. Et Marseille, mais c'était pas. Ça tergiversait un petit peu. Ouais, voilà, ça bégayait un petit peu,
bizarre,
comme on dit.
Quoi.
Non, un très bon club. Et il fait le forcing pour que tu restes. Qu'est-ce qu'il te dit pour te convaincre de rester à Lille?
Non, il me dit qu'il est très ambitieux, qu'il compte. Recruter des joueurs entre guillemets de mon type, parce que c'est vrai que il y avait pas, moi j'étais quand même international et il y avait pas beaucoup d'internationaux à Lille à cette période-là en tout cas, et qu'il a envie de gagner des titres.
Ah, il te parle de titres.
Ah ouais, ouais. Le mec était déter. Ah ouais. Mais il savait ce qu'il voulait, il savait où il allait, et puis c'est ce qui est arrivé au final, donc voilà, je peux que le remercier pour ça, il a tenu sa parole.
Ouais, non, mais c'est vrai
et
que c'est.
C'est vrai que c'était gonflé de parler de titre alors qu'on était le LOS, quoi. Je veux dire, si je vais à Marseille, à Paris, je sais pas, à Monaco, Lyon, on te dit on va jouer le titre, oui, c'est possible. Mais c'est vrai qu'à Lille, et notamment à cette époque-là, c'était très compliqué. Ouais.
Pourtant, c'est une équipe qui montait vraiment en puissance entre la période de la fin de Claude Puel où vous finissez 7e, après Rudy Garcia. Vous enchaînez deux saisons où vraiment vous êtes bon, régulier, vous tapez souvent des grosses équipes. Enfin, c'est une équipe qui est importante de Ligue 1. Et j'ai l'impression que, en fait, vous avez réussi à gagner le titre au moment où il fallait le gagner. C'est être au bon endroit, au bon moment. Et ça a été un peu le cas avec Lille, alors que d'autres clubs comme, je pense, Rennes, qui est peut-être 10 ans avant, ont eu cette occasion de peut-être pas 10 ans avant, mais quelques années avant, de faire un truc et n'ont pas réussi à le faire. Et vous avez réussi, mais en même temps, il faut dire, vous avez une équipe de fous, quoi. Genre,
ouais,
toi, Cabaye, Balmont.
C'est plus devenu une équipe de fous après.
Après
parce qu'avant, on les connaissait pas, on prêtait pas vraiment attention. C'est surtout le fait que derrière, ces joueurs-là, on va dire, ils aient fait des belles carrières, qu'on s'est rendu compte qu'on avait une équipe, une très belle équipe. C'est sûr que... à l'époque, Hazard, même s'il était monstrueux, mais c'était un jeune qui sortait du centre. Cabaye, Debuchy, pareil. Chedjou, Rami, c'est pareil. C'est des mecs qui sortaient du centre. Après, derrière, ils ont été plus connus parce qu'ils ont fait des grands clubs. Devant, je ne parle même pas de Gervinho, Sow. Voilà, mais c'est vrai qu'après coup, on se rend compte qu'on avait quand même une équipe de ouf. Quoi.
Ouais. Et ce qui était aussi fou dans cette équipe, c'est de voir que il y avait le 11 et même les remplaçants, tu avais ceux qui rentraient assez souvent en jeu. Je pense à Ludo Bragnac, je pense à Tullio De Melo. C'est des gens qui comptaient en basket. Il y a cette notion de sixième homme, dire le remplaçant qui va rentrer, qui va faire la différence. Et tu avais vraiment ça à Lille, c'est-à-dire que c'était vraiment tout un groupe. Est-ce que c'est pour toi la meilleure équipe dans laquelle tu es joué? C'est celle qui est championne
Ouais, je pense que c'est la meilleure équipe. Et puis même en termes d'atmosphère, en termes d'ambiance. Mmh. Ce qu'on disait tout à l'heure, à cette époque-là, on était encore nombreux. Quand il y avait des repas, on était nombreux à ça. Et justement, je pense que tous ces moments-là ont fait que, ben, qu'on casse des barrières, on se lie les uns les autres, et sans forcément être tous les meilleurs amis, parce qu'on ne peut pas. Mais on avait un objectif commun. Et ça a rendu notre aventure belle. Et comme tu as dit, ce n'était pas que 11 joueurs, même si évidemment on a le 11 qui ressort d'abord, mais c'est tous ces joueurs-là, de Mello, Bragnac, Fro, voilà, j'en oublie sûrement, Dumont, mais c'est tous ces joueurs-là qui sont sentis concernés et qui ont emmené leur pierre à l'édifice et qui nous a permis de faire ce doublé.
Voilà, et après deux saisons, 2008-2009, où c'est Bordeaux qui est champion, 2009-2010, bah, c'est Marseille qui est champion.
Ouais, je crois qu'ils ont été.
Ouais, ouais. À l'orée de la saison 2010-2011, est-ce que vous dites, bon, cette année, il faut qu'on gagne. On n'est pas loin à chaque fois. On produit du beau jeu, on marque beaucoup de buts. Est-ce que là, est-ce que vous dites, cette saison, c'est pour nous, quoi ?
Pas du tout.
Pas du tout.
Pas du tout. Tu verras, si tu regardes notamment le début de saison, on gagne notre premier match à la 5e ou 6e journée, juste. Et c'était peut-être notre déclic. On va gagner un derby, justement, à Lens. Mais non, on n'était pas... Franchement, on n'était pas programmé pour ça. L'année d'avant... On était deuxième avant la dernière journée, on finit quatrième. Donc on a pris une claque parce qu'on même en finissant deuxième, tu joues la Ligue des Champions.
Ouais.
Et on finit quatrième, on se retrouve en Europa League. Enfin, sur une journée, tu perds. J'imagine pour le club, tu perds des millions d'euros. Nous, les joueurs, la déception immense de jouer la Champions League et l'Europa League, c'est pas pareil. Donc voilà, une grosse déception. Mais je me souviens très bien de ce soir. C'était un match à Lorient, on perd. Et ce soir-là, on décide quand même d'aller encore une fois. Prendre un verre tous ensemble, il y avait le staff technique, les coachs, les joueurs. Et je pense que ces moments-là ont fait que l'année d'après, voilà, il y a quelque chose qui s'était créé. Peut-être qu'il y a eu une forme de force qui s'est créée avec cette défaite, cette déception qu'on a eue l'année d'après. Mais c'est vraiment venu au fur et à mesure de l'année qu'on s'est dit, bon, ben là, on va peut-être jouer le titre.
C'est vraiment un truc qu'on retrouve dans pas mal de sports, d'équipes sportives qui ont loupé le... l'objectif à toute fin, à la dernière journée, et qui, la saison d'après, en fait, arrive à remporter, je pense, en basket aux Spurs, par exemple, en 2013, qui perdent vraiment, ils sont à 2 secondes d'être champions, finalement, ils perdent. Je pense au Bayern qui perd sa finale de Ligue des Champions chez lui, et l'année d'après, la force mentale de se donner et de gagner. Et en fait, c'est un peu ce qui s'est passé avec Lille, c'est que vous êtes à deux doigts d'aller en Ligue des Champions, de finir deuxième, et en fait, vous faites encore mieux, vous finissez champion. La saison d'après, il y a un peu de ça qui...
C'est vrai.
Et donc, tu l'as dit, le coach à l'époque, c'était Rudy Garcia. Quelle relation tu avais avec lui ou tu as toujours avec Rudy Garcia?
Déjà, on avait cette relation entraîneur-capitaine, on va dire. C'est sûr que c'est plus qu'un joueur. Forcément, une relation particulière entre nous. Même si il nous laissait... Et il me laissait parfois discuter, mais c'est toujours lui qui avait le dernier mot.
Ouais, c'est ce qu'il écrit dans la préface, ouais. Il dit c'était lui le boss.
Pas trop quand même. Hein. mais au final, ouais, c'est lui qui avait toujours le dernier mot. Mais c'était une relation qui m'a fait énormément de bien et qui était très voilà, il y a pas de problème, on s'entendait bien, chacun dans sa partie et voilà, franchement, on avait rien à cacher. Il me parlait devant le groupe, on se parlait dans le bureau. Voilà, une grande, grosse relation de confiance. Ouais.
C'est toi qui lui as demandé d'écrire la préface de ton bouquin, ouais. Ça s'est passé comment? C'était une évidence pour toi que ce soit lui qui l'écrive et pas Mathieu Valbuena, par exemple, avec qui tu es très proche, par exemple.
Non, c'était mieux que ce soit Rudy. Il n'y avait pas d'histoire de sextape, tout ça, tu vois.
Ouais.
non, mais c'était mieux que ce soit lui. Je préférais quelqu'un qui ait plus de recul, qui ait de l'expérience et quelqu'un avec qui on a partagé cette belle aventure.
Et au moment où on enregistre cet épisode, il est coach de l'OM, il est un peu dans la tourmente, donc je sais pas ce qu'il en sera quand l'épisode sortira.
Ah, tu veux des infos ou quoi? Ça, je l'ai pas eu. Je te dis direct que je l'ai pas eu.
Bah, tu l'as fait. Non, c'est même pas ça que je voulais te demander.
Pour les nouvelles, pour les fêter une bonne année, c'est tout. Après, je rentre pas dans le professionnel.
Ouais, non, mais ce que je veux dire, comment toi, tu vois de l'extérieur, toi qui l'as très très bien connu à Lille, là, ils sont un peu sous le feu des critiques. Comment tu vois un peu cette... beaucoup sous le feu des critiques. Comment tu vois un peu cette situation qui traverse
Ben, c'est compliqué. Hein. Franchement, ouais. C'est très compliqué. Quand je sais le compétiteur qu'il est et comment il doit souffrir, là, je me dis, voilà. Et en plus, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas grand-chose pour eux, l'OM, hein, en ce moment. Même si c'était mieux le dernier match à Saint-Etienne, je trouvais voilà, mais il manque encore une fois cet attaquant, hein, qui leur fait défaut pour marquer des buts.
Le fameux grand attaquant.
Voilà. Ouais. Mais après, non, après, moi, comme je le connais, il ne va pas lâcher. Il ne va pas lâcher, il va s'accrocher. Et voilà, je pense qu'il leur manque ce match, cette victoire qui va les faire rebasculer. Mais pour l'instant, elle ne vient pas. Donc, je pense que là, le prochain, à mon avis, si ça ne vient pas, ça va être compliqué. Mais je ne sais même pas contre qui il joue le prochain.
Le prochain match, c'est contre Caen. Enfin, au moment où on enregistre cet épisode, ce sera contre Caen, Caen.
Mais je pense qu'ils auront gagné Caen et que ça sera reparti. Ouais.
Bah, j'espère. Mais sinon, t'as pas un nom de grand attaquant à nous conseiller. Ton pote Eden Hazard, là, il veut pas venir signer.
Trop cher pour vous.
Trop cher.
Balotelli, c'est bien, non?
Ouais, écoute, on verra. Sinon, on va lancer une cagnotte Litchi pour. on peut faire ça aussi, ouais. Et après Rudy Garcia, c'est René Girard qui arrive à la tête du LOSC. Et tu en parles en des termes très élogieux. Vous faites une bonne saison, je me rappelle. Vous êtes l'équipe qui tenait tête à Paris. Tu avais de bons rapports avec lui.
Ouais.
Ouais, ouais.
Ouais, très bon rapport. Je l'ai connu en
espoir.
France Espoir.
Ouais.
Et ouais, vraiment, un mec droit, direct, franc. Et puis surtout un mec très, très, très humain. Voilà, on a beaucoup parlé aussi. Il m'a donné beaucoup de conseils. Vraiment, j'apprécie beaucoup l'homme, l'entraîneur. Je ne l'ai pas vu en tant que joueur, mais j'ai beaucoup entendu parler de lui à Bordeaux.
Ouais.
Il ne sait pas ça par. Hein,
ouais.
Il était assez agressif.
Un peu, ouais.
Mais vraiment, moi, ce que je regrette plus chez lui, c'est comme on a tous l'habitude de faire, mettre des gens dans des cases. Et il est enfermé dans une case, et alors que c'est un.
Case très défensive.
Ouais, c'est ça. Alors qu'il n'a jamais eu de consigne comme ça avec nous. Hein. Alors, c'est vrai qu'il gagnait beaucoup de matchs par 1-0, mais bon, qu'est-ce que tu veux. Vaut mieux ça que perdre des matchs tout le temps 1-0. Hein.
Mais c'était quoi sa philosophie de jeu, du coup? S'il en avait une déjà?
Non, franchement, il nous laissait une totale liberté. Hein.
Ouais.
En plus, on jouait quand même dans un système. On a beaucoup joué dans un système en 4-4 de losange.
Ah ouais.
Et donc, c'est quand même un système qui est offensif. Mais après, on avait la chance d'avoir un super gardien, une super défense, donc on prenait pas beaucoup de buts. Et on en marquait tout le temps un au moins. Donc, moi, choisir, je prends toujours ça.
Ouais, ça fait la différence au final, ouais. Et quand je regardais un peu les coachs que tu as eu à Lille, donc tu as eu Claude Puel, tu as eu Rudy Garcia, puis René Girard, ça se passe très très bien. Mais après, c'est un peu la débandade. Hervé Renard, ça se passe. Tu l'écris, tu dis qu'à un moment il est un peu dans la tourmente et vous essayez avec certains joueurs, certains cadres de le réconforter, mais si je me trompe, il y croit pas. Il dit que toi en tant que capitaine, t'as pas assez fait pour le soutenir. Et après Antonetti, dont tu es assez élogé au départ, enfin, t'es vraiment content de l'exercice, mais qui est trop parano, quoi.
Ouais. Non, mais c'est vrai que.
Est-ce que ces deux expériences, ça gâche pas un peu
ça gâche pas. Après,
la fin.
C'est comme ça. On peut pas toujours bien s'entendre avec tous nos entraîneurs. Après, avec Hervé Renard, il n'y a jamais eu plus de problèmes que ça pendant qu'il était entraîneur. C'est vraiment quand il s'est fait licencier peut-être qu'il a cherché un coupable, je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'a pas assumé ce que lui a déclaré dans la presse en disant qu'il n'avait plus de solution. Moi, ça, après, je suis pour rien. Le président, il prend ses décisions. Et puis, il a qu'à aller voir le président Sédou, qui est assez honnête, qui lui dira qu'on a essayé justement de tout faire pour le maintenir et qu'il a pris sa décision. Donc, nous, on n'y peut rien en tant que joueur et moi non plus en tant que capitaine. Et après, pour ce qui est d'Antonetti, voilà, il a le droit de penser ce qu'il veut, mais comme on dit, hein, les chiffres ne mentent pas. Donc... Donc, tu ne peux pas dire des choses sur un joueur et le faire jouer autant. Donc, c'est... Voilà. C'est encore une fois, c'est intervenu quand il s'est fait pareil, quand il s'est fait licencier. Donc...
C'est sa fameuse sortie sur les lignes parisiennes, voilà. C'est ça.
Donc c'est... Et puis, c'est même pas sorti quand il s'est fait licencier, c'est quand il recherchait, quand il essaie de revenir un peu dans le devant de la scène. Donc, qu'il avait fait une interview sur Canal Plus avec son pote. Donc voilà, c'est. J'étais petit, mais moi, j'ai aimé travailler avec ces entraîneurs-là. Et y a pas de souci, même si y a une différence quand même entre les trois premiers cités.
C'était lequel ton préféré, enfin, pas ton préféré, mais celui avec lequel tu as pris le plus de plaisir à jouer?
Forcément, ça reste Rudy Garcia, parce qu'on a vécu, c'est l'entraîneur que j'ai eu le plus longtemps, et avec qui on a vraiment pratiqué un beau football et qu'on a connu des titres. Donc quand tu arrives à pratiquer un beau football et en plus gagner des titres, c'est encore plus beau. Mais voilà, je retiens du bon de ces trois. Et même globalement, j'essaie toujours de retenir le positif de tous les entraîneurs que j'ai côtoyés.
Ouais. Et donc Bordeaux, Lille, mais une autre grande page de ta carrière, c'est l'équipe de France.
Grande et pas grande.
Été longue,
on va dire.
Ouais, longue, c'est vrai, sur la durée, mais en termes de quantité de matchs, c'est un peu moins grand. Et à un moment, tu dis que, enfin, il y a cet épisode avec la sélection d'Aquitaine où tu peux pas jouer parce que t'as pas les bons papiers. Et pourtant, plus tard, quand tu joues avec les espoirs, aucun problème. Tu peux jouer des matchs amicaux, aucun problème, alors que la demande de naturalisation, tarde à se concrétiser, ce qui est assez fou, mais tu l'écris, tu ressens tu te sens vraiment français, quoi. T'as pas encore les papiers, mais ça a été vraiment important pour toi, l'équipe de France. C'est vraiment quelque chose qui a été important pour toi.
Ouais, c'était important pour moi parce que je pense qu'il y a rien au-dessus de l'équipe de France, hein. C'est le Graal, c'est ce qui, je pense, que tous les joueurs ont envie de jouer pour leur sélection nationale. Et encore plus les Français, parce que évidemment la sélection équipe de France, c'est une sélection importante, hein, on l'a encore vu cet été, donc forcément que oui, de jouer en équipe de France, c'est pour le coup, même si ça arrivait très vite, que j'ai pas eu le temps de me dire putain, j'espère qu'un jour je jouerai en équipe de France, ça arrivait assez rapidement.
Mais t'étais jeune quand t'as commencé.
J'avais 20 ans, ça faisait que 6 mois je jouais en Ligue 1. Enfin, 8 mois, parce qu'il y a eu les vacances, c'était en août, je commence en janvier. Ça faisait 8 mois que je joue en Ligue 1 et j'avais 20 matchs juste. Donc forcément que c'était ouf. J'en ai pris conscience tout ça après, on va dire même quand je suis revenu, plutôt que quand ça arrivait comme ça, où j'ai même pas eu le temps de réfléchir, ça arrivait, bam, j'ai enchaîné. Mais bien sûr, c'est la fierté.
Ouais, c'est Raymond Domenech qui te sélectionne la première fois. C'est un peu une période de reconstruction. Tous les anciens, entre guillemets, champions du monde, t'as Zidane, Lizarazu... Thuram qui prennent leur retraite. Et toi, tu arrives avec cette nouvelle génération de joueurs. Comment tu t'es senti à ce moment-là de porter le maillot bleu dans cette période-là un peu difficile? Est-ce que la pression n'était pas trop grande à ce moment-là?
Non, je ne pense pas. Ce qui était space, c'était un peu... On sentait Domenech qui voulait partir sur une nouvelle génération et... Et qui, on lisait, qui n'a peut-être pas tout fait pour retenir Zidane ou certains anciens. Et malgré qu'eux soient partis, il en restait quand même d'autres qui avaient été champions du monde, champions d'Europe. Ça ne se passait pas non plus très bien.
Henri, donc, Pires,
on se retrouvait un peu dans un contexte où le climat n'était pas très sain, tu vois. Pas très bon pour débuter. D'ailleurs, il me semble que de tous les jeunes qui ont joué à ces gens-là, il n'y en a vraiment aucun qui s'est vraiment... imposé en équipe de France, parce que je te dis, la période n'était pas terrible. Mais sinon, c'était pas non plus une grosse pression, parce que je te dis, je calculais même pas. Donc,
Ouais, tu te rappelles de ton premier match?
C'était où?
Je te pose la question.
Moi, je te pose la question.
Voilà, à toi de me dire. Là, j'ai pas eu le premier match.
Ah, voilà, tu vois, tu voulais me piéger.
Exactement.
Non, quand même, j'ai expérience maintenant. Non, le premier match, c'est pas celui que tout le monde pense. Tout le monde pense que c'était France-Irlande, mais mon premier match, c'était France-Bosnie, à Rennes.
Ok.
Ouais. Et on avait fait un partout, et j'avais joué une mi-temps, je crois. Ouais,
c'est ça. Avec un but de Lundula.
Ouais, un but
voilà, de Lundula.
C'est bien. Ça rafraîchit la mémoire.
Non, un peu. Là, c'est le Bosnie qui m'a rafraîchi la mémoire. Parce que j'avais ses chaussures et du coup, ça m'a fait penser à ça. Ouais. Et donc, tu fais la campagne de qualification pour la Coupe du Monde 2006. Ouais. Et il y a un truc, il y a un événement qui se produit à l'été 2005, c'est ça?
Ouais.
C'est le retour de Zidane, de Thuram et de Makelele. qui joue au même poste que toi. Mais j'ai l'impression que tu l'as pris, enfin, dans ce que tu dis dans le livre, tu l'as pris plutôt bien, en fait. Tu l'as plutôt bien accepté. C'est, pourtant, pour un compétiteur, pour un joueur de foot pro, c'est...
Non, mais... C'est un peu bizarre. Qu'est-ce que tu veux faire? C'était le taulier. Mmh. C'était le taulier dans son club. C'était un des meilleurs milieux de terrain du monde. Il revient. Nous, en plus, on galérait quand même un peu dans cette campagne. Qu'est-ce que tu veux faire? Pour l'équipe de France, c'était bien. Faut dire ce qui est. Pour moi, ça avait peut-être été moins. Mais honnêtement, ça aurait servi à quoi que je reste? Et je ne dis pas que c'était que moi le problème de l'équipe de France. Hein. Mais ça aurait servi à quoi que je reste et qu'on se qualifie pas. Bon, peut-être que si je reste avec Zidane, c'est pas pareil aussi. Hein. Moi, quand j'étais là, il y avait pas Zidane. Hein. Mais évidemment que non, pour l'équipe de France, c'était bien parce que ça se compliquait, la qualif, elle se compliquait.
Ouais. Ouais, mais après ça, du coup, il y a une longue période où, enfin, tu reviens vraiment quasiment, enfin, c'est sous Deschamps en fait, c'est ça.
Ouais, c'est Deschamps.
Okay. Donc, il y a eu Domenech, il y a eu Blanc. Enfin, Domenech est resté longtemps quand même, mais il y a eu Domenech, il y a eu Blanc. Pendant toutes ces années, t'es plus appelé en équipe de France. Pourtant, tu performes, voire surperformes avec Lille, et t'es pas appelé. À ce moment-là, le décalage entre ton niveau de jeu à Lille et le fait que tu sois pas appelé, tu le vis mal, je suppose, non?
Ouais, ouais, j'étais déçu. Mmh. Déçu de même pas avoir une chance, qu'on m'appelle une fois, qu'on me dise, bon, voilà, on va te récompenser de tes bonnes saisons. Même, ferais-moi jouer une mi-temps, tu me regardes, si je suis zéro, ben, je dégage. Mmh. Mais non, même pas le fait d'être essayé, ouais, beaucoup de déceptions. Après je te cache pas que je vivais bien, hein. j'étais malheureux. Hein.
Bon, tu gagnes des titres, ça va.
Ouais, mais évidemment qu'il y avait la déception de ne pas pouvoir... Tu vois, je voyais des copains qui partaient en sélection, je voyais... j'ai vu Adil, Johan Cabaye, je les voyais partir en sélection, mais je me disais, bah, écoute, c'est comme ça, hein, c'est qu'il il aspire à d'autres joueurs. Voilà, je l'ai pris comme ça. Heureusement, derrière, il y a un bon entraîneur qui s'est gagné, qui est arrivé, tu vois, pour reprendre, tu vois.
Tu parles de Deschamps. Mais t'as eu peur à un moment de ne pas jouer de Coupe du Monde, par exemple, t'as vraiment eu peur de ça?
Franchement, ouais, j'aurais été déçu, vraiment, ça aurait été une grosse déception de ne pas faire une phase finale avec l'équipe de France. Tant mieux que ça ait été une Coupe du Monde. Mais même si j'avais fait un Euro, j'aurais été content, ouais.
Et finalement, tu fais... La meilleure des phases finales pour une nation, c'est la Coupe du Monde. En plus, dans un endroit, peut-être le meilleur endroit au monde possible pour vivre, pour jouer une Coupe du Monde, c'est le Brésil. C'est, là, ça y est, c'est le rêve de gosse, de footballeur qui se réalise à ce moment-là.
Ouais. C'est un rêve. C'est un truc de fou, une Coupe du Monde. Mmh. C'est aussi un. Bah, je rejoins un peu mon père, tu vois.
Ouais, donc 40 ans
donc,
après,
c'est dommage. Ouais, c'est ça. Donc c'est aussi un bel hommage, comme tu dis, il y a des signes comme ça. C'était ouf, en émotion. C'est la plus belle chose que j'ai pu faire, en émotion personnelle.
Ouais. En plus, tu joues un petit peu, tu joues un match, donc c'est pas comme si tu avais été. Adil, par exemple, t'as pas joué. Ton pote Adil n'a pas joué l'été dernier, mais toi, au moins, t'as joué.
Ouais, mais donc... il est champion du monde.
Non, mais je crois qu'il dit qu'il ne sent pas trop champion du monde. C'est-à-dire que comme il y en a qui disent ça, comme Areola aussi.
Pas, regarde son Instagram. Regarde leur Instagram, tu vas voir s'ils ne sont pas champions du monde.
Ouais, j'irai checker ça après, ouais. Mais même si t'as pas joué, tu n'étais pas forcément titulaire, l'objectif, c'était d'y aller, quoi.
Ouais, c'était d'y aller. Après, j'ai eu la chance, comme tu dis, pour être plus sérieusement, de jouer en plus. Donc, c'est important. C'est important de moi, je peux dire que à mon fils, c'est de la pression maintenant. Moi, j'ai joué la Coupe du Monde, comme ton grand-père.
Ouais.
Mais ouais, j'ai joué. Franchement, ça fait. C'est bizarre, c'est spécial. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent dire qu'ils ont joué en Coupe du Monde. Donc, évidemment, encore une fois, c'est de la fierté. C'était aussi une récompense sur l'ensemble de ma carrière. Franchement, c'était trop beau. En plus, au Brésil, tout était réuni pour que je sois au top du top là.
Bon, malheureusement, on perd en quart de finale contre l'Allemagne. Tu le dis, ce match, enfin, je pense que tu l'as très très bien résumé. C'est il n'y a pas eu de grande différence. Ça s'est joué vraiment sur un détail, un marquage, un coup de tête et voilà. Il y a aussi une super parade de Manuel Neuer. Sans regret.
Si, parce que.
Même si l'Allemagne va au bout, au final, tu te dis
que tu es éliminé par... Justement, quand tu vas au bout et que tu vois comment était le match serré, et quand tu vois aussi leur demi-finale où ils en mettent 7 au Brésil, je te dis pas qu'on en a remis 7, mais on a souvent été la bête noire des Brésiliens. Donc, donc ouais, regret de, qu'on n'ait pas fait peut-être plus face à l'Allemagne. Hein, c'est resté un match bizarre, spécial, mais je me dis qu'au moins ce match-là, il aura servi
en 2018.
Parce que tu dis, encore une fois, moi je vois beaucoup de signes, et c'est Varane, c'est lui qui a l'erreur du marquage. Et là, en quart de finale, c'est lui qui marque de la tête. Donc voilà, je pense que ça aura servi à. On va dire que c'était les prémices, tu vois.
C'est ça. Donc tu fais partie des.
Ouais, tu connais, c'est quoi, la base.
C'est l'avant-dernière passe. Ouais. tu lances l'action. Donc du coup, le piston, là, tu vas lui mettre la pression pour 2034 ou plus tard.
2034, ouais, 2034, c'est pas mal. Hein.
Il aura quel âge à ce moment-là?
2034, il est de 2010.
Il aura 24 ans.
Ça fait jeune, hein.
Wow, s'il a le talent.
C'est jeune, hein. Bon, pourquoi pas.
Ouais. Est-ce que tu veux parler d'autre chose? Est-ce qu'il y a un truc dont on n'a pas évoqué, un truc que tu aimerais rajouter? Ah bah si, je suis... En fait, c'est maintenant. Tu travailles pour RMC, c'est ça?
Ouais,
consultant
ouais.
pour RMC. Ça va, tu kiffes?
Ouais, franchement, je kiffe. Hein. Je kiffe, je ne m'attendais pas à être là. Mais franchement, je kiffe. Bonne découverte, bonne expérience.
Ouais. Tu es consultant, tu commentes les matchs?
Ouais, je commente les matchs.
Ouais. Donc, ça se passe comment, genre, tu prépares bien, pas trop de pression?
Non, pas trop de pression, il faut bien préparer les matchs.
Ouais.
Voilà.
T'es comment sur les buts? Comment tu commentes un but?
C'est de mieux en mieux, ça commence de mieux en mieux. Au début, j'étais un peu trop bas, tu vois.
Ouais, genre, but, oui, très
bon. Non, pas que là, tu vois, là, c'est plus que bas, là. Là, t'as coupé le son, là, j'ai coupé le son. Mais non, mais il faut prendre, hein, c'est un nouveau métier.
Ouais, c'est vrai.
Faut prendre le rythme. Ça fait un petit moment que j'ai pu commenter là, avec les vacances et tout, et qu'il n'y avait pas la Coupe d'Europe. Mais évidemment,
tu montes que la Coupe d'Europe?
Non, je suis en anglais aussi. Là.
Aussi, ouais.
Là, je refais là, City Arsenal, là, mon prochain match, début février.
Ah ouais, pas mal. Hein.
Ouais, on fait des gros matchs quand
sur
même.
Place
ouais,
sur place?
Ouais.
Ah City. Ouais, là, ok. Ça, c'est bien ça.
Donc, ça, c'est top. Ouais, c'est top. Non, franchement, c'est bien. Tu vis d'autres choses, tu vois d'autres choses. Sur mon premier match sur site, justement, c'était à Barcelone. Et tu vois, j'avais l'impression de redécouvrir Messi, tu vois.
Ah ouais?
Pourtant, on le connaît, mais quand je regarde Barça, quand tu regardes un match à la télé, tu suis souvent le ballon.
Ouais, c'est vrai.
Tu regardes pas forcément les déplacements.
Effectivement.
Et là, du stade, tu peux, même en regardant le ballon, tu peux voir le déplacement de Messi qui fait en marchant presque. Et il arrive à trouver des zones où il est seul. Tu vois, tu découvres des choses que tu voyais pas forcément.
Ouais. Non, c'est vrai qu'il y a une vraie expérience de match entre le regarder à la télé et être au stade. Et je pense même une troisième que toi, tu as vécu, c'est quand tu es sur le terrain.
Ouais.
Donc, c'est vraiment trois visions différentes d'un match. Et le fait d'être commentateur, tu vois vraiment les choses
au-dessus.
Le fait de voir comme ça, là, tous les joueurs un peu en hauteur, ça ne donne pas envie de devenir entraîneur, de dire en fait, là, je vois les deux lignes de quatre.
C'est partie de l'avenir. C'est partie de l'avenir. On va préparer ça.
Ah, c'est un truc que tu aimerais faire, coach?
Ouais, ben là, en avril, je commence à passer mes diplômes. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui peut me brancher. Ouais.
Ah bah, carrément, je savais pas que tu t'ambitionnais de devenir entraîneur.
Entraîner les jeunes, après.
On commence tranquille. Après... Tu peux faire comme Henry, hein. Ou plutôt comme Guardiola, après le Barça.
Je pense qu'il faut bien se faire la main, je pense.
Ouais, je pense que c'est pas mal. Écoute, Rio, merci beaucoup d'être venu dans Banquet, c'était vraiment sympa. Donc, je rappelle, tu as sorti un bouquin il y a quelques mois déjà, donc Rio Mavuba, Capitaine de ma ville, L'exil, le foot, les bleus, chez les éditions Solar, pardon, coécrit avec Étienne Labruni, que j'avais pas cité au début. Écoute, bonne continuation pour la suite.
Merci, bonne continuation à toi aussi.
Merci beaucoup.
Prochain match avec le Barcelone.
Ouais. Et l'équipe de France.
Et l'équipe de France. Voilà. La blessure, hein, je crois que t'es soigné.
Ouais, non, t'inquiète.
Je vous dis, hein, il ressemble vachement à ton petit.
Je pense que les auditeurs de Banquette le savent déjà. Il y a eu pas mal de quelques vidéos qu'on tournait pendant la Coupe du Monde, notamment, où la ressemblance était vraiment frappante. Ouais.
Ça va.
Merci beaucoup. Et puis, bonne journée, bonne continuation.
Merci.
À bientôt.
À plus tard.
Banquette est une émission de nouvelles écoutes animée par moi-même, Abdallah Swadri, générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux avec la musique de Mehari, montage et mixage par Laurie Galigani et à la prise de son Ashley Tola. Merci à Rio Mavuba d'avoir accepté notre invitation
Si vous avez aimé cet épisode, dites-le nous sur nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. Et si vous aimez Banquette, mettez-nous 5 étoiles s'il vous plaît sur Apple Podcast. C'est vraiment le meilleur cadeau que vous pourriez nous faire pour la Saint-Valentin. Et puis moi, je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Ciao !